Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Avec cette question justement, êtes-vous parents d'enfants précoces, surdoués, à haut potentiel? Quel terme faut-il employer d'ailleurs pour ne pas froisser les consciences et pour bien comprendre cette réalité? À quel âge vos enfants ont-ils été identifiés et comment avez-vous adapté votre comportement et votre éducation à ces qualités qui ne sont pas toujours simples à vivre? Nous sommes ce matin avec un spécialiste pédopsychiatre qui va pouvoir répondre à vos questions, qui va pouvoir partager vos témoignages sur cette précocité intellectuelle qui parfois peut provoquer des tourments affectifs, des désarrois également à l'école. Et vos témoignages sur ce sujet sont indispensables. Bonjour Julie, on vous attend.
Bonjour Wendy. Oui, on vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute et on vous lit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Et puis à 10h, on se demande pourquoi le loup est encore dans le viseur des chasseurs. Le gouvernement doit-il pour vous augmenter le quota des loups à abattre au prétexte que la population est estimée à 500 spécimens et que les éleveurs s'inquiètent encore pour leurs troupeaux? 12 000 brebis tuées l'an passé. Le ministère lance une consultation sur la question, mais nous, citoyens, sommes-nous si bien informés? À tout de suite.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avant d'échanger sur le sujet de la précocité intellectuelle des enfants comme des adultes, avant de recueillir vos témoignages et de comprendre comment vous vivez ces propres situations, il est important de savoir de quoi on parle et vous êtes là pour nous éclairer. Gabriel Val, bonjour.
Bonjour.
Pédopsychiatre, ancien professeur de psychologie à l'Université Paris 7 et vous êtes auteur de 2 livres que je recommande d'emblée aux éditions PUF, Les enfants intellectuellement précoces et Les adultes surdoués. Surdoué, c'est un terme d'ailleurs qu'on manie avec une grande précaution aujourd'hui. C'est pas la même chose d'être surdoué, d'être à haut potentiel, d'être précoce intellectuellement?
En réalité, c'est parfaitement synonyme.
D'accord.
Alors évidemment, chaque terme a son petit défaut. Par exemple, surdoué, ça peut donner un peu une image un peu élitiste. Au potentiel, ça manque un peu peut-être de clarté. Enfant précoce, évidemment, on ne peut pas être précoce toute sa vie, parce que sinon, quand on est précoce adulte, on finit par être dément. Au QI, c'est le quatrième terme qu'on peut utiliser, qui signe là le diagnostic, mais il faut pas dire diagnostic, il faut dire identification. Identification par les tests d'intelligence.
D'accord.
Et dans ce cas-là, on considère que le haut QI correspondant au surdon démarre, si j'ose dire, à 130.
D'accord. Il y a une confusion, en tout cas, dans l'opinion publique, et c'est pour ça que c'est important de faire une émission et un tour de la question sur le sujet. On entend surdouance, en effet. On va mettre de côté tout de suite les prodiges, les virtuoses, les génies. On est dans une catégorie un petit peu anecdotique et exceptionnelle.
Oui, le surdoué, c'est quelqu'un finalement d'assez ordinaire. Ça correspond à 2% de la population. Mm-hmm. Donc ça correspond à ceux qui font des études brillantes, en tout cas en général. Et par conséquent, ça ne peut pas en effet être assimilé au génie qui transcende son époque. Ce n'est pas le cas des 2% de surdoués d'une population générale.
D'accord, entre élèves brillants, très brillants et surdoués, il y a quand même une marge.
Un élève brillant, statistiquement, il est plutôt surdoué.
Il est plutôt dans les hauts potentiels.
Voilà, plutôt dans les hauts potentiels. Encore une fois, c'est synonyme, mais on peut utiliser ce terme. Statistiquement, alors on peut avoir évidemment des enfants surdoués qui ne sont pas laborieux et qui ont des résultats modestes, et puis des enfants qui ont le goût de l'effort, le goût d'apprendre et qui auront des résultats sans forcément avoir un talent intellectuel de type haut potentiel.
Il y a un autre terme que vous avez peut-être vu, lu, entendu, celui de zèbre, pour désigner ces personnes à haut potentiel. Moi, je ne le savais pas, Julie, je l'ai appris en lisant et en préparant cette émission. Elle explique ce choix par le fait que le zèbre se fond dans le paysage, Gabriel Val, mais qu'il reste fondamentalement différent d'un cheval et des autres animaux de la savane. Mmh. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à part, même s'il sait bien faire illusion. Vous êtes à l'aise avec ce terme-là?
Pas plus que cela, non. C'est un terme sympathique. Familier, c'est un terme qui peut être retenu, mais qui présente quand même un tout petit avantage, c'est que ça permet comme cela de se désigner comme surdoué avec pudeur.
C'est ça, et puis avec un peu d'humour.
Par exemple, on peut lire sur des blogs « Je suis zèbre », et c'est une façon de le dire avec une espèce de fausse humilité.
Très bien, avant d'accueillir Caroline qui veut témoigner sur la précocité de ses deux enfants, Maude nous écrit de Clermont-Ferrand sur Facebook. À partir de quel âge peut-on et doit-on faire diagnostiquer, donc on a bien compris, c'est pas diagnostiquer, mais identifier un enfant qu'on soupçonne de précocité?
Bah, d'abord, il n'est pas nécessaire de passer un test. Je veux dire, la majorité des enfants à haut potentiel ne passent aucun test, font des études réussies, sont heureux dans l'existence, ont beaucoup de privilèges liés à leur talent,
oui.
Et ils n'ont pas nécessairement besoin de passer un test.
D'accord.
On passera un test lorsque la question se pose de façon, je dirais, presque, entre guillemets, malheureuse, si vous voulez. Lorsque un enfant est en situation difficile, soit sur le plan de la personnalité, soit sur le plan scolaire, on pourra s'interroger pour intégrer dans la panoplie psychologique éventuellement un test. Mais sinon, un enfant qui réussit, qui est heureux dans la vie, ce qui est le cas de l'immense majorité des enfants à haut potentiel, il n'y a pas de nécessité à faire passer un test. Si ce n'est qu'on peut légitimement, quand on est parent, avoir la curiosité de savoir quelles sont les capacités intellectuelles de son enfant.
C'est ça.
On n'est pas dans un registre médical ou psychologique, on est dans un registre d'exploration légitime des caractéristiques de son enfant.
Mais passer un test, ça permet aussi peut-être aux parents qui s'interrogent de mieux adapter aussi leur éducation ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que si on sait, par exemple, qu'un enfant a un grand talent intellectuel, on peut éventuellement réfléchir de façon différente à des orientations scolaires, même si les résultats ne sont pas à hauteur de ce talent.
D'accord. On va donner plein d'exemples pour ceux qui nous écoutent.
Sinon, pour répondre à votre question, vous me demandiez à partir de quel âge ?
Oui,
alors disons que les tests les plus fiables, on peut dire que ça commence à 6 ans.
D'accord.
Mais à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des tests qui permettent déjà d'en avoir une idée au moins approximative.
Vous retranscrivez dans votre livre « Les enfants intellectuellement précoces » un inventaire d'identification d'un psychologue français, Jean-Charles Terrassier, qui permet de voir un petit peu les critères, justement, sur les enfants précoces ou à haut potentiel. L'enfant capable d'apprendre à lire avant le CP, seul ou presque aidé, qui lit beaucoup et rapidement des livres, qui manifeste un grand intérêt pour les encyclopédies et les dictionnaires, qui choisit souvent des camarades plus âgés que lui pour des activités d'intérieur, qui aime beaucoup dialoguer avec les adultes, qui pose toujours des questions très variées et originales. Je m'arrête là, mais il y a une liste beaucoup plus longue. Et on y reviendra au gré de cette émission. Bonjour Caroline.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Merci de venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Je citais quelques critères. J'imagine que vous retrouvez un peu de vos deux bouts de chou dans la liste que je viens de donner. Vous nous donnez leur prénom puis leur âge, s'il vous plaît, Caroline.
Totalement, c'est le portrait fidèle d'Emma qui a 7 ans et demi et de Thomas qui va avoir 6 ans.
D'accord. Et qui sont des enfants que vous avez fait identifier, pour reprendre ce terme amené ici par Gabriel Val, Caroline ?
Alors, pour la grande, oui, ça a été une demande dès l'entrée en école où on s'est rendu compte qu'elle avait un niveau supérieur à ses camarades, mais surtout une capacité une incapacité plutôt à s'acclimater et à échanger avec ses camarades. Il ne faut pas oublier que ces enfants-là peuvent être très brillants à l'école, c'est le cas de ma fille, mais en grande souffrance humaine et relationnelle.
C'est ça, donc vous saviez qu'il y avait un problème et vous essayiez de voir un petit peu comment identifier ce problème-là. Comment avez-vous fait avec ces fameux tests, cet arsenal qui existe aujourd'hui, le test QI notamment ?
Alors, elle a effectivement été diagnostiquée à la fin de la petite section à la demande de l'établissement. Donc, on est passé par un système du psychiatre scolaire qui nous a permis de mettre un mot sur quelque chose que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Et on a eu la chance d'avoir une équipe enseignante qui a pu l'aider et adapter son fonctionnement à sa particularité.
C'est-à-dire au potentiel ?
Oui, c'est-à-dire à lui apporter des choses différentes de ses camarades et à essayer de l'accompagner dans la gestion des relations humaines.
Si vous voulez bien, Caroline, poursuivre dans un petit instant, on va faire une petite pause. Et puis, je voudrais que vous nous disiez un petit peu justement dans l'accompagnement pour la gestion humaine, etc., à la fois à l'école, à la maison, en vacances. Comment vous vous y prenez, vous comme maman ? Comment vous vous êtes adaptée justement au comportement de vos petits-enfants précoces et adorables et qui ne demandent qu'une chose, c'est justement de bien s'intégrer aussi. À tout de suite sur Europe 1 avec notre invité Gabriel Val, pédopsychiatre, et qui a publié « Les adultes surdoués et les enfants intellectuellement précoces » au PUF, Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau. Nous parlons des enfants intellectuellement précoces. Il y a plusieurs manières de les de parler d'eux, oui, on peut dire celle-ci, intellectuellement précoce, et des adultes surdoués aussi, Wendy
Absolument,
Bouchard.
Absolument, ces fameux haut potentiel, haut quotient intellectuel aussi que vous nous décrivez, Gabriel Val, avec les témoignages que nous allons recevoir, et c'est déjà le cas avec Caroline qui nous appelle de Limoges et qui nous parle à l'instant de ses deux enfants, Emma et Thomas, 7 ans et 5 ans et demi. Caroline, alors, vous nous avez expliqué que la petite Emma, à la fin de la section, de grande section de maternelle, avait été identifiée avec un test QI, parce qu'elle était en souffrance, c'est-à-dire qu'elle vivait mal, manifestement, cette précocité. Y compris à la maison
Y compris à la maison où c'était plutôt moi qui ne comprenais pas, enfin, c'était la première, et j'avais tendance à adapter les jeux que je lui proposais à son âge. Mmh. Et en fait, elle avait besoin de plus. Elle voulait aller plus loin. Elle savait lire à 4 ans, à peine 4 ans et demi. Et effectivement, les jeux de son âge, tout comme les camarades de son âge, elle n'a pas d'interaction avec, elle n'est pas à l'aise avec. Oui. Elle est capable de tenir une conversation avec un adulte. Elle est à l'aise dans le monde des adultes. Elle est en souffrance avec des camarades de son âge.
Elle est dans quelle classe aujourd'hui, Emma ?
Emma, elle va rentrer en CM2.
Vous ne lui avez pas fait sauter de classe, comme c'est de rigueur parfois ? Si ?
Si, elle en a sauté deux.
Elle en a sauté deux, d'accord. Et aujourd'hui, sa scolarité se passe comment, Caroline ?
Alors, la scolarité se passe très bien. Enfin, on va finir l'année avec 19 ou 19,5 de moyenne générale.
Ah oui, ouais.
Les relations humaines sont toujours très compliquées, même si on travaille beaucoup dessus. La scolarité est idéale, mais c'est un enfant qui n'a jamais eu besoin d'apprendre, qui ne sait pas ce que c'est qu'apprendre.
Ah oui, c'est presque intuitif, quoi, ça que vous voulez dire.
C'est ça.
Ouais. Julie, il y a une question ?
Mais oui, justement, je voulais savoir comment on apprend à lire tout seul à 4 ans.
Mmh.
Puisqu'il faut aller à l'école pour apprendre à lire, il faut qu'on nous l'apprenne.
Je n'en ai aucune idée.
Ouais. Et oui. Vous n'en avez aucune idée.
Ah bon. Je n'ai aucune idée de comment elle a pu apprendre à lire avec le livre qu'elle avait à disposition à son âge, où effectivement, j'ai souvenir qu'elle a posé des questions. Alors très tôt, elle savait identifier les lettres avant de rentrer à l'école, elle savait les écrire, elle a associé les sons toute seule très très tôt, et oui, je ne sais pas, elle avait 4 ans, 4 ans et demi, des questions revenaient, un C à côté d'un H, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se prononce.
C'est ça, elle vous a demandé de l'aiguiller, c'est ça. Gabriel Val, ce témoignage, il est impressionnant.
Oui, il est tout à fait sympathique, bien qu'il donne une image un peu négative de la précocité intellectuelle, alors que la grande majorité des enfants précoces ne souffre pas à hauteur de ce que cette maman décrit. Mmh. Alors sinon, pour répondre à ce petit mystère de ces enfants qui apprennent à lire sans qu'on les sollicite, bah, c'est tout simplement la curiosité intellectuelle. Ils voient, si vous voulez, dans leur univers, que ce soit à la télévision, des panneaux publicitaires, ils voient des lettres. Mmh. Et ils se demandent ce que ça veut dire. Mmh. Et ils finissent de façon intuitive à découvrir que, par exemple, Europe numéro 1 s'écrit E-U-R-O-P-E. Et
ça.
Ils finissent par découvrir que E, ça peut aussi se prononcer de la même façon dans un autre mot, etc. etc.
Ouais, donc, une soif d'apprendre.
Et voilà, une soif d'apprendre. D'ailleurs, un enfant intellectuellement précoce, le plus souvent, il écoute la conversation des adultes parce qu'il est passionné par la conversation des adultes et il pose plein de questions. Mmh. Et en effet, il peut y avoir parfois le mot souffrance, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas, des difficultés à vivre avec les autres enfants de son âge parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs. Voilà. Par exemple, j'ai un de mes petits patients qui m'expliquait qu'il s'intéressait à l'astrophysique, mais que c'est 7 ans. Mmh. Ses copains s'intéressaient au Pokémon et au foot. Pour avoir des copains, il amenait des cartes Pokémon et il faisait semblant de s'intéresser au foot. Ça ne marchait pas. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais à ton avis, pourquoi ça ne marche pas ? Il m'a dit, parce que je ne suis pas beau. Il était magnifiquement beau. Donc, évidemment, on peut souffrir si on imagine qu'on ne peut pas avoir de copains parce qu'on n'est pas beau, etc.
Il avait
etc.
déplacé le problème.
On se construit, évidemment, une souffrance de l'ordre du manque d'estime de soi. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'enfants surdoués qui sont très précoces et qui s'amusent comme des fous à la récré avec leurs copains et qui se fichent complètement de savoir si les centres d'intérêt sont en communion ou non.
Ce qui est le cas aussi, vos enfants. Mais, ils vivent bien leur vie, Caroline.
Mais totalement, le deuxième qui a le même diagnostic et qui a la même avance est l'enfant le plus extraverti, le plus joyeux de la cour de récréation.
Oui.
Celui qui vit en bande en permanence avec ses copains et qui ne se pose absolument pas la question d'une quelque différence que ce soit.
Oui, je sais simplement qu'il a été absorbé par la lecture du livre d'Alain Sirou et de Jean-Philippe Balla sur l'homme sur la lune en 69, c'est ça ?
C'est ça, c'est son idée du moment, je confirme.
Par exemple, mais ça c'est magnifique. Voilà,
je voudrais préciser une toute petite chose à cette maman et à nos auditeurs, à Caroline. Quand un enfant est en souffrance, et si je retiens même la formule de Caroline, en grande souffrance. Il faut peut-être, dans un premier temps, se demander si la grande souffrance n'est pas liée à un autre élément que le surdon. Et on en a un petit peu la demi-preuve, puisque vous avez deux enfants surdoués, l'un est malheureux, l'autre ne l'est pas. On peut donc se demander s'il n'y a pas un autre élément de la personnalité que l'on va suratribuer au surdon de façon artificielle. Autrement dit, quand un enfant est anxieux, il ne l'est pas nécessairement parce qu'il est surdoué. On peut être anxieux avec un QI faible, avec un QI médian, avec un surdon.
Oui, oui.
Mais quand un enfant est anxieux et surdoué, on va dire il est anxieux parce qu'il est surdoué.
Oui,
mais quand un enfant est anxieux et qu'il a un QI médian, on ne dira pas il est anxieux parce qu'il a un QI médian.
Pour terminer avec vous, Caroline, parce que la petite Emma, en l'occurrence, elle est en souffrance sur un certain nombre de choses, mais elle vit par ailleurs très bien sa vie. C'est plutôt dans ses relations avec ses camarades, si j'entends bien.
C'est pour ça, le reste, ça va. Mais bien sûr, après, effectivement, c'est des enfants pour qui la gestion des émotions, en tout cas pour certains, je rappelle que chaque enfant à haut potentiel est différent de son camarade, la gestion des émotions reste quelque chose de compliqué pour certains de ces enfants-là, elle en fait partie.
Voilà. Oui, vous voulez dire sur l'hypersensibilité, là-dessus, ça c'est très clair.
Oui.
Elle est plus émotive que les autres enfants que vous pouvez connaître. Par exemple.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, totalement. Mais on travaille avec un professionnel à l'aider à gérer ses émotions, tout cas à les accepter et à mieux les gérer.
Très bien. Eh ben, on va en parler justement des émotions et d'autres spécificités, qualités ou plus de complications pour ces enfants précoces. Mais je retiens que savoir lire de soi-même à 4 ans et demi par curiosité, c'est exceptionnel. Merci Caroline de ce témoignage et
merci,
gros bisous
à
Emma et Thomas. Et à tout de suite avec Gabriel Val, pédopsychiatre, et qui nous éclaire sur ces enfants intellectuellement précoces et sur les adultes aussi. N'hésitez pas à nous appeler, surdoués ou à haut potentiel. À tout de suite.
Toute une liste de critères d'identification de la précocité, précocité intellectuelle chez les enfants. On retrouve cette liste dans le livre de notre invité.
Les enfants intellectuellement précoces, et on peut en donner quelques-unes, hein, sont des enfants en général perfectionnistes, qui ont peu d'estime d'eux à cause des difficultés rencontrées. Apprentissage précoce de la lecture,
on en parlait. Comme cette petite fille de 4 ans là, qui a appris à lire toute seule, parfois sans aide extérieure justement. L'hypersensibilité aussi. Langage soutenu qu'il va adopter au cours de sa propre éducation. Il supporte difficilement l'échec, l'enfant surdoué.
On va y revenir à Gabriel Val, oui.
Grande capacité d'attention, ça va avec la curiosité intellectuelle. Hein. Le sens de l'humour, ça c'est pas mal. Ah, les enfants précoces ont plus d'humour que
alors,
les autres.
Alors, ça pourrait se nuancer.
C'est-à-dire qu'ils ont... Plutôt ironique, alors. Peut-être l'ironie.
Ils ont une avance sur la compréhension de l'humour. Donc, du point de vue d'un adulte, ils apparaissent comme ayant plus d'humour simplement parce qu'il y a plus de correspondance avec l'humour adulte.
Ouais.
Donc ils comprennent plus facilement les jeux de mots, ils y prennent plaisir, etc. Donc, c'est pas nécessairement un sens de l'humour... différent sur le plan de ce que chacun peut avoir par rapport à l'humour, un repère individuel, mais c'est plutôt une compréhension plus rapide.
Et puis une sensibilité à l'harmonie, à la musique, à l'esthétique, ça c'est bien, c'est une bonne qualité.
Oui, l'amour du beau, c'est quelque chose qui va parfois avec... avec l'intelligence.
Ouais. Alors, vous disiez grande capacité de mémorisation pour la lecture. Il y a, j'en connais quelques-uns des enfants précoces qui connaissent la géographie par cœur, les capitales du monde entier, les drapeaux du monde entier, les joueurs de foot du monde entier. Comme l'apprentissage précoce des grandes dates de l'histoire, quel mécanisme du cerveau est en jeu, si c'est aussi ça le rapport, Gabriel Val ?
Alors, on a étudié bien sûr la biologie cérébrale des enfants précoces par comparaison avec des enfants qui ne le sont pas. Donc, il y a deux ou trois éléments qui commencent à être un peu fiables. On n'a pas évidemment percé tous les mystères. Le premier, c'est que le développement du cortex est beaucoup plus lent chez les enfants précoces en comparaison des enfants qui ne le sont pas. Plus lent, ça signifie quoi ? Ça signifie que le développement adulte se fait plus tardivement en termes d'épaisseur du cortex. Assez paradoxalement, on pourrait penser que l'avance biologique soit déjà inscrite dans les études, par exemple par IRM.
Oui.
Là, c'est le contraire. On a plutôt un lent développement cérébral, comme si il fallait prendre plus d'informations, réfléchir plus longtemps, etc. Et la deuxième chose, c'est que le cerveau des enfants précoces est plus économe d'énergie. C'est-à-dire que pour une même activité, pour un même exercice, pour un même problème, eh bien l'enfant précoce va dépenser moins d'énergie, moins de glucose que l'enfant non précoce. Donc tout se passe comme si, en quelque sorte, la facilité intellectuelle de la précocité s'accompagnait d'une énergie moindre pour ce qui est de la réalisation de tout ce qui concerne la vie intellectuelle.
D'accord. Et pour tout ce qui est attrait aux émotions, à l'hypersensibilité, comment on explique qu'elle soit un peu plus exacerbée chez ces enfants précoces ?
Alors, ce n'est pas quelque chose qui est complètement établi.
D'accord. Pas totalement partagé.
Voilà. Ce n'est pas quelque chose... L'hypersensibilité, c'est un terme qui est souvent accolé à la précocité intellectuelle, mais les études ne le démontrent pas de façon claire. Ce qui, en revanche, peut-être expliquer ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est deux, trois éléments. La première, c'est qu'il peut y avoir ce que l'on appelle une dyssynchronie, c'est-à-dire l'enfant a l'intelligence de percevoir des événements douloureux de l'existence, par exemple la maladie, la mort, la souffrance humaine, avec une affectivité qui reste celle de son âge. Et donc, de ce contraste peut naître une certaine souffrance, une dyssynchronie affectivité-intelligence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme leur centre d'intérêt nous parle plus, à nous les adultes, nous considérons qu'ils sont plus sensibles. Par exemple, si un enfant souffre parce qu'il a peur des sorcières, par exemple, ça va nous faire plutôt sourire. Mais si un enfant souffre parce qu'il a peur de la maladie et de la mort, nous allons considérer cela avec plus d'émotion et d'empathie.
On va considérer qu'il est très en empathie, c'est ça aussi. Voilà. Oui. Edwige nous écrit de Nérac, Lot-et-Garonne. J'ai eu un enfant qui était surdoué à l'école. Ils ne sont pas forcément heureux, ces enfants. S'ils ont une sensibilité très forte, ils se retrouvent à part, dit-elle. C'est la faute de la société qui laisse passer des choses. Même à l'éducation nationale, mon fils s'est retrouvé puni car il a donné souvent des réponses avant les autres. Tout s'est dégradé à partir de 15 ans. Il s'ennuyait tout le temps. Pour lui, les autres étaient trop longs à comprendre, même si pour moi, c'était une chance. Compliqué aussi, on va parler justement de l'intégration dans ce milieu scolaire qui est parfois trop formaté.
Oui. Alors, bon, en effet, il peut y avoir des maladresses à l'égard des enfants précoces dont on va mépriser le goût d'apprendre, le goût de la découverte. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'anecdotes dans ce registre. Par exemple, je pense à un enfant qui m'explique qu'il avait fait plein d'exercices qu'il avait donnés à sa maîtresse, qui étaient bien en avance des exercices qu'il avait improvisés lui-même, qui étaient donc tout à fait en dehors du cours. Il les avait présentés avec fierté à sa maîtresse et sa maîtresse lui avait dit « Tu ne feras que ce que je te dirai de faire, tu ne feras rien de plus. » Bon, évidemment que cet enfant était brisé dans son élan de partager ses centres d'intérêt.
Ah oui, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les accompagner, être très attentif, parce que ça peut parfois mal se terminer.
Donc il faut une bonne formation des enseignants sur ce sujet, ouais, comme d'ailleurs sur tous les autres. Il faut aussi une compréhension, une empathie à l'égard de ces enfants et ne pas considérer qu'ils sont en quelque sorte imbus d'eux-mêmes, qu'ils posent des questions pour se faire valoir, etc. Ouais, etc. Ça correspond à un vrai besoin, une vraie curiosité intellectuelle.
Nous allons avoir Marie dans un instant qui nous appelle de Paris, qui est surdouée, comme elle le dit, c'est le terme qu'elle emploie et ça lui pose manifestement quelques problèmes aujourd'hui dans sa vie professionnelle. Elle a 34 ans. A tout de suite sur Europe 1 pour parler à la fois des adultes qui étaient par ailleurs et avant enfants précoces et des enfants intellectuellement précoces et à haut potentiel. Merci de venir témoigner également sur les réseaux sociaux, Julie. On vous attend
avec,
et je peux relayer.
Bien sûr, avec le hashtag Europe 1. A tout de suite. De la question sur les enfants surdoués. On parlera des adultes aussi.
Absolument.
Ils sont d'anciens enfants surdoués. Quand on est adulte,
forcément. Oui.
Ça fait partie de ces 2% de la population française.
La révélation peut être tardive, mais le surdon existait préalablement. Oui. On ne devient pas surdoué en cours de vie.
Ça serait formidable. Ça ferait rêver beaucoup. Gabriel Val est avec nous. Il s'exprime à l'instant, pédopsychiatre et auteur des adultes surdoués et des enfants intellectuellement précoces aux éditions PUF. Alors, on a beaucoup de témoignages qui arrivent, Gabriel Val. Celui de Marie, pour commencer au 3921. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Merci de venir échanger sur ces compétences, ces qualités. Je ne sais pas comment vous définissez ce surdon que vous avez aujourd'hui, chez vous. Vous vous qualifiez de surdoué d'abord ?
Oui, alors justement, vous parliez en début d'émission des différents mots.
Oui.
Et c'est compliqué, en fait, déjà, c'est compliqué pour soi-même, moi j'ai trouvé, de le dire, de lâcher en fait le mot surdoué. Et pour en parler à l'entourage, c'est aussi très compliqué. C'est compliqué parce que, en fait, le grand public connaît surtout le mot surdoué. Les oui. autres noms, au potentiel, alors zèbre, n'en parlons pas, c'est pas du tout connu. Mmh. Et du coup, bah, c'est quand même le mot surdoué, quand on veut annoncer ça, c'est quand même surdoué qu'il faut dire, parce que sinon, voilà, c'est compliqué. Et en même temps, ben, ça fait tout de suite très prétentieux. Et puis surtout, il y a une image qui colle de petit génie. Moi, j'ai l'impression que les gens pensent tout de suite le génie mathématique oui. Qui va trouver des formules. Alors déjà, moi, je suis littéraire, donc ça ne me parle pas du tout.
D'accord.
Mais donc ça, effectivement, c'est difficile. J'aime bien le mot zèbre parce que après on peut un peu plus s'expliquer et puis ce côté un petit peu différent c'est pas mal.
Ouais, ça permet une connu, bonne quoi. Approche et une bonne aussi pédagogie de ouais. ce que vous vivez en fait. Ouais. Par exemple, comment ça s'exprime chez vous ce surdon, Marie ?
Alors moi déjà je l'ai découvert à 26 ans. Un peu par hasard, voilà, en me posant deux, trois questions sur deux, trois épisodes de ma vie scolaire. Mais pourtant, j'étais une bonne élève, mais voilà, j'étais pas juste une bonne élève. Mmh. Et puis c'est en lisant un livre, en fait, que je me suis reconnue. Et ça a été quand même un gros choc parce que pas mal de pensées que j'avais en moi, que j'avais jamais partagées, une façon de dire les choses où je me suis dit « mais c'est moi ». Et en fait, là, j'ai eu l'impression de découvrir comme un gros complexe que je découvrais, quoi.
Mais par exemple, il y a eu des ouais. événements un peu traumatisants dans votre scolarité ? Est-ce que vous parliez de ces étapes scolaires ?
Oui, alors, enfin, non, pas traumatisant, mais je pensais en cours de langue, par exemple, des choses où moi, je n'arrivais pas, et d'ailleurs, je ne suis pas bonne en langues étrangères,
oui.
parce que je n'arrivais pas à exprimer dans une autre langue. Parce que déjà, je n'arrivais pas à exprimer en français. Et je me disais dans ma tête, mais c'est complètement absurde et débile de me faire écrire une rédaction alors que je ne sais pas moi-même en français ce qu'il faut écrire.
Oui.
Et je voyais en fait mes camarades qui ne se posaient même pas la question. Il fallait écrire et on sortait les poncifs. Et en fait, ce que le prof attendait, c'est les trois idées oui. clés qu'on avait apprises. Et moi, je ne voyais pas l'intérêt
mais
de ça. En fait.
Ce qui est intéressant, Marie, je vais vous interrompre, ouais. mais vous restez oui, avec oui. nous. Hein, mais pour faire oui, un oui. échange aussi avec Gabriel Vann, notre invité pédopsychiatre. Intéressant ce que dit Marie, c'est qu'à la fois elle a été identifiée surdouée, par exemple pas bonne en langue littéraire, mais problème à retranscrire une pensée dans une langue étrangère. Est-ce que ça, c'est ce que vous avez vu parfois non. passer aussi ?
Statistiquement, quand on est bon dans un domaine, on l'est dans tous.
D'accord.
C'est comme ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on est bon en maths, on a plus de chances d'être bon en français, d'être bon en langue, d'être bon en
tout. Et là, vous parlez de la population générale ou des précoces ?
Non, je parle de la population générale oui. des surdoués.
Ah d'accord, oui.
D'accord
oui.
Statistiquement, c'est ainsi, c'est comme ça.
Mm-hmm.
Et ça a été démontré depuis 100 ans, puisqu'on a fait des corrélations, si vous voulez, de talents dans un domaine, et puis on a regardé tous les autres, et statistiquement. Mais bien sûr, après, il peut y avoir mille nuances, et bien évidemment, on peut être littéraire et ne pas avoir beaucoup de dons pour les maths. On peut, par exemple, lorsqu'on n'a pas, par exemple, de talent pour les langues, ça peut être lié à des raisons tout à fait annexes, par exemple la difficulté de percevoir des sons étrangers lorsque on a un manque de plasticité, si vous voulez, par rapport à des sons qui ne correspondent pas aux sons de la langue maternelle.
Mais là, elle décrit voilà. un peu autre chose, Marie. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas déjà à formaliser un petit peu, à formuler ses propres réflexions en français, dans sa langue maternelle. Et donc, il y avait une barrière pour elle pour retranscrire dans une autre langue.
Oui, mais peut-être que cette barrière n'est pas en lien direct avec le surdon.
D'accord,
c'est ce que je veux dire simplement.
Oui, il ne faut pas tout, oui.
Voilà, le don pour les langues, le don pour parler, le don pour prendre un accent, c'est quelque chose qui ne correspond pas forcément au surdon rationnel, oui. Au surdon de l'abstraction.
Oui.
D'accord, voilà. Donc, c'est pour ça que tout est assez complexe. Donc, on a à la fois des histoires individuelles, et en même temps des études scientifiques, et parfois il peut y avoir un paradoxe entre les études scientifiques qui montrent que, par exemple, pour me répéter, quand on est doué dans un domaine, on l'est dans tous, et à l'inverse, bien sûr, individuellement, on peut avoir un talent ici et un manque de talent là.
Et aujourd'hui, votre surdouance, parce que j'ai trouvé ce terme qui n'est pas très joli, mais il existe,
surdouance
canadien, votre surdouance, Marie, elle s'exprime comment ? Vous avez des facilités dans certains domaines, très clairement ?
Moi, je dirais, en fait, c'est probablement au niveau un peu de la créativité.
Oui.
Parce que je voulais revenir sur une chose que j'ai pas trop entendue là depuis le début de l'émission.
Oui.
C'est pour moi aussi l'association des choses. Faire des associations d'idées que peut-être quelqu'un qui est pas surdoué va jamais penser faire. Parce que justement, pour moi, le surdoué est celui qui va sortir du cadre, qui va associer deux choses. Et au travail, Moi, je me dis, c'est là où je vais être bonne, c'est-à-dire que ça ne va pas être dans un domaine thématique ou spécifique, c'est plus que écouter les choses, avoir en fait un regard à 360 degrés, une vue d'ensemble, que quelqu'un pas surdoué aura juste un regard à 180 degrés.
Oui, mais ça vous pose problème au travail ou au contraire ?
Alors ça peut poser problème dans le sens où... du coup, un peu comme tout à l'heure le témoignage dans la scolarité, c'est-à-dire que dès qu'on sort du cadre, ça pose problème. Et donc en RH, au niveau des managers, non, on ne va pas se risquer parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est nouveau, donc on ne va pas oser. Et puis l'autre chose qui me pose vraiment problème, c'est la gestion des émotions. Ah oui. Là, c'est vraiment, ça, c'est hyper difficile.
C'est-à-dire difficile
à expliquer.
Ouais, c'est-à-dire que vous êtes très timide ou vous êtes très très émotive et que vous pouvez vous fondre en larmes, dès qu'il y a une situation.
Alors
un peu compliquée.
Très émotive, mais ça peut être positif et négatif. C'est-à-dire, ça va être des coups de colère qui vont, c'est le tsunami en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que tout d'un coup, un coup de colère qui va partir. Moi, j'ai claqué les portes au bureau. Même moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Et aussi, ça va être l'esprit, alors un peu le côté un peu idéaliste et puis l'esprit d'émerveillement pour des petits trucs où tout le monde va dire bah non, mais c'est une pâquerette qui pousse dans le gazon, c'est rien quoi. Alors que moi, je vais m'émerveiller pendant 10 minutes.
Ouais.
Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose pour moi que j'ai vu chez d'autres surdoués de s'émerveiller. Les gens comprennent pas quoi. Ils disent mais qu'est-ce qu'il y a là ?
Mais ces montagnes russes d'émotions, par exemple, ça, Gabriel Val, c'est pareil, on ne va pas faire de schéma type. Hein,
oui, mais voilà. Là aussi, je suis un peu dans l'embarras parce que cette description, évidemment, est tout à fait précise et très intéressante, mais je ne sais pas si elle correspond au surdon en général.
C'est ça.
Il y a évidemment des gens qui sont colériques, qui ont peut-être même le goût de l'émerveillement en ayant une intelligence modeste. Et à l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une intelligence exceptionnelle et qui a une personnalité plutôt pâle et n'est pas dans l'enthousiasme permanent. Je veux dire. Bon, alors cela dit, il y a quand même des correspondances statistiques. Par exemple, quand on est intelligent, on est plutôt plus créatif.
Oui.
Ça, c'est clair. Quand on est intelligent, on a plutôt le goût du beau. Ça aussi, là, vraiment, l'émerveillement, comme dit cette auditrice, comme dit Marie, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent, le goût du beau. Et même chez les enfants, d'ailleurs. Mm-hmm. Les enfants, par exemple, les enfants précoces, quand ils rentrent dans un bureau, par exemple, dans mon bureau, ils ont un regard d'adulte sur certains objets. Et ils vont même commenter éventuellement, disant « ça c'est beau, ça devrait être là », etc., etc. Donc ça, on le retrouve. Alors que pour un enfant, disons, qui n'aurait peut-être pas autant de talent, le décor adulte ne l'intéresse pas.
Ouais.
Il va regarder le jouet qui est sur le bureau, mais il ne va pas forcément regarder le tableau ou la beauté d'un meuble. Par exemple, j'ai un enfant de 7 ans, 8 ans, qui se passionne pour les antiquités. Donc quand il rentre dans un cadre, il s'intéresse au meuble, savoir quelle époque c'est, etc., etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose, le goût du beau, le goût de l'approfondissement, le goût de l'émerveillement, c'est quelque chose en effet qu'on peut retrouver assez facilement chez les enfants surdoués.
Et j'ai l'impression que vous vous retrouvez aussi dans ces mots. Merci beaucoup Marie pour votre témoignage.
Merci.
Vous êtes rejoint Marie par Alexandre qui nous écrit « Comme Marie et toujours aujourd'hui, je me pose beaucoup trop de questions que les autres ne se posent pas. Je cherche pourquoi, comment, toujours devant une copie, ce qui me joue des tours avec les notes, perte de temps ou hors sujet. » Voilà aussi un quotidien décrit par un jeune adolescent ou jeune adulte précoce. Pauline vient réagir juste après la pause. Elle va nous parler de son blog Over the 130. 130, c'est le quotient intellectuel des hauts potentiels. Voilà,
par convention,
c'est ça. Et nous informe beaucoup justement sur cette précocité sur son blog. À tout de suite.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. On retrouve Wendy Bouchard et son invité, le pédopsychiatre.
Il faut donner beaucoup d'argent au jury.
Pardon.
Excusez-moi. Nous sommes avec celui que vous venez d'entendre, le pédopsychiatre Gabriel Val, ancien professeur de psychologie à l'Université Paris 7 et auteur de deux livres qui concernent le sujet dont on parle jusqu'à 10 heures, Les adultes surdoués et Les enfants intellectuellement précoces. C'est au PUF.
On parlait en fait pendant la pause du fameux quotient intellectuel et des tests de QI justement qui peuvent aider et qui sont même de très bonnes aides pour identifier des enfants à haut potentiel, etc. Et en l'occurrence, on a une norme, 100, c'est-à-dire que c'est à peu près
la médiane.
Donc on a 100, ça veut dire
qu'on est exactement au milieu, 50% des gens sont plus intelligents et 50% le sont moins.
D'accord.
Et quand on est à 130, on est entre 98% qui le sont moins et 2% ou un peu plus qui le sont plus.
Les tests de QI, ils sont, c'est fait à base de formes, à base de chiffres, beaucoup. C'est-à-dire que si on a un esprit littéraire, on peut avoir un QI très médiocre.
Non, encore une fois, il y a en principe une correspondance entre les différents talents.
C'est,
en principe, maintenant, il peut y avoir des exceptions. La fabrication des tests, ça date de 100 ans, c'est une invention française. C'est très simple dans son principe, au moins pour les enfants. Pour les adultes, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les enfants, c'est très simple. On regarde de façon très concrète ce qu'est capable de faire un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Par exemple, mémoriser des chiffres, par exemple, expliquer un mot de vocabulaire. Et quand un enfant de 5 ans est capable de faire ce que, en moyenne, un enfant de 6 ans fait, eh ben, il a une avance, il a une précocité intellectuelle. Et quand un enfant de 5 ans n'est pas capable de faire ce que font, en moyenne, les enfants de 4 ans, il a un retard intellectuel. Voilà. C'est aussi simple que cela.
Il y a des tests de QI adaptés à tous les âges.
Ah, il y a des tests de QI adaptés à tous les âges. Et ces tests ont été calibrés sur des moyennes. Donc, quand vous vous retrouvez avec un QI à 130, ça veut dire que vous avez répondu à des questions dans toutes les directions possibles. Mmh. Hein, c'est justement l'intérêt des tests sérieux. C'est que on balise en quelque sorte tout le champ de l'intelligence. Des questions de vocabulaire, des questions de mathématiques, des questions de compréhension sociale, etc. etc.
C'est-à-dire que ce test, pardon Julie, ce test de QI, il faut le faire avec un professionnel. Il ne faut pas le faire en ligne comme on l'encourage.
Oui, alors,
c'est la question que j'allais poser. Où est-ce qu'on les trouve, ces tests? Est-ce qu'ils sont fiables?
Ces tests en ligne, j'avoue que je ne suis pas sûr qu'ils soient très fiables. Mais
en tout cas, moi j'ai un QI de 80 quand je fais le test en ligne. Ce qui m'a
non, Wendy, là, il y a erreur.
ou pas, je ne sais pas.
Je vais vous donner l'adresse de quelques psychologues qui vous permettront de rétablir votre estime. mais donc oui, en effet, il y a comme dans tous les domaines, il y a des aventures qui sont plus ou moins sérieuses. Et en effet, sur Internet, on peut se distraire, mais probablement pas atteindre un niveau de réponse très fiable.
En tout cas, pour parler sérieusement et pour répondre aussi aux préoccupations des parents qui nous écoutent.
Vous n'étiez pas
sérieuse
quand vous parliez de votre
QI à
80 ?
Si. Moi, hélas, oui. Mais pour les parents qui se posent la question, là, pour le coup, il faut être encadré par un professionnel et aller choisir ce bon test. Et ce qui nous amène au témoignage de Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Car on va parler de votre expérience, de votre propre parcours, mais aussi du blog que vous avez créé et qui s'intitule Over the 130. Voilà pourquoi cette entrée en matière, 130, parce que vous êtes au-dessus de cette ligne finalement qui définit la précocité, le haut potentiel. Vous vous souvenez combien vous avez eu au test QI, Pauline?
Alors oui, je m'en souviens. Je donne pas le chiffre précis, mais je peux vous dire que c'est au-delà de 145, donc c'est dans le troisième écart-type de la distribution.
Oh là là. Et alors, vous l'avez fait à quel âge, ce test, Pauline?
Alors, je l'ai fait plutôt tardivement, puisque je l'ai fait juste avant mes 30 ans. Un mois de mes 30 ans, précisément.
D'accord. Mais pour une raison particulière, pas pour vous amuser. Vous l'avez fait parce que vous sentiez quelque chose en vous?
Absolument pas. En fait, c'est complètement fortuit. Moi, j'ai un parcours d'adulte qui se découvre surdoué à l'âge adulte assez finalement anecdotique, dans le sens où la plupart des adultes découvrent leur haut potentiel intellectuel suite à l'identification de leurs propres enfants ou parce que, comme Marie, ils étaient en quête personnelle et ils ont lu des livres sur le sujet et s'y sont retrouvés et ont passé le test pour vérifier. Moi, je suis allée voir une psychologue pour toute autre chose et le haut potentiel ne faisait absolument pas partie de mes perspectives, de l'histoire de ma vie. Même, pour dire, j'en savais tellement rien, je pensais que ça ne concernait que les enfants.
D'accord.
J'y suis allée pour toute autre chose et c'est ma psychologue qui, très rapidement, m'a parlé du sujet et m'a suggéré de me renseigner. Et puis m'a dit que si je souhaitais en avoir le cœur net, je pouvais passer un test. Que j'ai fait. Et bah, son méthode a été validée.
Alors, vous faites ce test, vous avez ce résultat. Ensuite, est-ce qu'à l'aune de ce résultat, vous revisitez un peu les grandes étapes de votre vie et vous comprenez des choses sur vous et sur votre parcours, Pauline?
Totalement. Ça a été une clé de lecture extrêmement précieuse pour revisiter une grande partie de ma vie, notamment tout ce qui va être l'aspect scolaire, aussi quelques aspects relationnels. Notamment cette dyssynchronie de centre d'intérêt avec les autres enfants, le fait que petite, comme le disait le docteur Val, je préférais la compagnie des adultes, je préférais des jeux plus intellectuels, les puzzles, les codes, ce genre de choses. Et ça a été extrêmement précieux pour ça, oui, très très utile.
Gabriel Val, quand on est enfant et quand on préfère la compagnie des adultes et même la compagnie des professeurs parfois à ceux des élèves, est-ce qu'on est forcément précoce ou est-ce qu'on peut simplement avoir une maturité un peu différente des autres?
Alors, la compagnie des adultes, ça peut être un élan affectif, oui. Mais si on préfère la compagnie des adultes pour partager des centres d'intérêt adultes,
c'est
plutôt un bon signe en faveur d'une précocité intellectuelle, même si on ne peut pas formellement, sur un seul critère, établir un QI.
Mais c'est-à-dire qu'on peut vivre avec cette précocité sans qu'elle soit identifiée, ça ne nous empêche en rien. Vous, Pauline, c'est manifestement le cas. En revanche, grille de lecture, on l'a compris. Aujourd'hui, ça, elle vous sert, cette précocité intellectuelle, dans votre vie quotidienne? Vous la mettez en avant, peut-être?
Elle m'a toujours servi, simplement je ne le savais pas.
Oui.
Simplement aujourd'hui, maintenant que je sais qu'elle est là, je l'utilise d'autant plus. Surtout, j'ai gagné confiance en moi et en mes capacités. Pas forcément mes capacités de réussir, mais en tout cas mes capacités d'essayer, d'entreprendre. Et ça fait déjà une énorme différence. Et je la mets en avant dans ma vie privée et dans ma vie de tous les jours, pas forcément, puisque il n'y a rien de très pertinent à... Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, de lui serrer la main.
Non, mais vous avez des qualités.
Dire bonjour, je suis sur deux.
Vous avez des qualités un peu exceptionnelles que vous pouvez mettre à profit pour votre travail.
Des qualités exceptionnelles, je ne sais pas, mais j'ai une facilité d'apprentissage qui est certaine. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de passer autant de temps que les autres sur des notions pour les intégrer. Je m'adapte très vite à différents environnements, ce qui est très pratique. Et je trouve très vite des solutions, comme je vous ai dit. Après, c'est une appétence personnelle, mais je pense que mon haut potentiel m'aide en cela. C'est que je trouve facilement les liens, parce que j'aime faire des codes, j'aime faire des puzzles. Donc, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Donc, dans les sciences, dans le domaine des sciences où j'ai fait mes études et où j'ai travaillé, c'était assez, assez pratique.
Quel est votre métier, Pauline, aujourd'hui?
Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis étudiante en master de psychologie.
D'accord.
Et avant ça, j'étais dans la communication scientifique, la médiation scientifique.
Ah, vous avez fait beaucoup de choses. Et il faut surtout dire que vous informez beaucoup, justement, les autres familles, les autres adultes précoces surdoués à haut potentiel avec ce blog. Je vous remercie de votre témoignage. Pauline, on va poursuivre avec Gabriel Val dans un instant. Le blog, on le rappelle, vous êtes auteur, Dover The 130, où vous trouvez une mine d'informations que vous n'avez pas eues, justement, vous, dans votre parcours et que vous mettez à profit pour tous les autres qui nous écoutent et qui ont besoin de grilles de lecture. À tout de suite, sur Europe 1 avec Julie. Nous parlons pendant quelques minutes encore des surdoués, leur singularité, leur profil psychologique, leur rapport au monde. Wendy Bouchard. À ces enfants et ces adultes précoces, avec notre invité Gabriel Val. Nous avions Pauline de Saboulin, qui est aujourd'hui étudiante en master de psychologie, qui a créé ce blog Over the 130 en ligne. Il y a un instant, vous connaissiez ce blog?
Oui.
Oui.
C'est un blog heureux.
Utile et heureux, oui.
Un blog optimiste, qui contraste parfois avec d'autres blogs qui, au contraire, insistent sur le malheur des surdoués.
Oui.
Donc, cela permet, comme cela, en passant, si on peut dire, d'un blog à l'autre, ou d'une association à une autre, puisqu'il existe plusieurs associations, notamment de parents d'enfants précoces, de pouvoir avoir un peu l'étendue, si vous voulez, de la polémique sur le sujet. Parce qu'on peut dire qu'il y a quand même deux camps idéologiques. Il y a un camp que j'appellerais le camp apocalyptique, c'est-à-dire qui considère plutôt le surdon comme une menace, comme quelque chose d'assez négatif, ou au contraire, vous avez, disons, en face, des gens qui, ne considérant que les statistiques et les études scientifiques, constatent que le surdon est un facteur de réussite dans presque tous les domaines. Meilleure santé psychique, meilleure santé physique, meilleure scolarité, meilleure vie professionnelle. Voilà. Et même sur le plan des données psychologiques plus subtiles, comme par exemple l'anxiété, les enfants précoces sont plutôt moins anxieux que les autres.
D'accord, intéressant. Vous pouvez rester un petit peu plus avec nous, j'aurais qu'on empiète, parce qu'on a encore quelques témoignages à vous livrer. En attendant, j'ai deux petites questions avant l'info. Dani, qui nous écrit du Muret, j'ai un enfant schizophrène, dit-elle, et surdoué. J'entends souvent que les schizophrènes sont surdoués, et je souhaite savoir s'il y a des statistiques en ce sens, Gabriel Val.
Tout à fait. Nous avons des statistiques très claires sur la distribution de l'intelligence dans la schizophrénie.
Oui.
Elle est identique à la population générale.
Donc, il n'y a pas plus de
schizophrène. Schizophrène et déficient, schizophrène et médian, et schizophrène et surdoué. Donc, il n'y a pas de corrélation statistique entre le surdon et la schizophrénie.
Très bien. Catherine nous écrit de Saint-Priest en Jarret. J'ai un enfant qui a un QI de 157. Et nous avons toujours relativisé les choses et nous avons pu lui parler très simplement. Mon fils est joyeux et détendu. Il ne faut pas systématiquement s'angoisser, dit-elle. Il n'a jamais rien fait à l'école, mais s'il s'en est très bien sorti. Ce qui prouve quand même qu'il y a un problème d'adaptation de ces enfants précoces à l'école. On nous avait dit qu'il y aurait des programmes d'accompagnement. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a quelque chose qui est fait vraiment spécifiquement pour ces enfants ?
Alors, en principe, dans chaque département, il y a un référent académique pour les enfants intellectuellement précoces. Ça veut dire qu'il y a une personne qui, dans chaque département, peut aider les parents qui sont confrontés à des difficultés. Par exemple, si un enseignant refuse un saut de classe, par exemple, si un enseignant refuse une adaptation, etc. etc. Par département, mais il y a une petite équipe. D'accord. Mais cela dit, vous avez raison de vous en inquiéter, parce que dans certains départements, il n'y en a pas. D'accord. Encore. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que l'éducation nationale a pris conscience de ce qu'il est nécessaire d'adopter une pédagogie différenciée. Pour les enfants précoces, d'ailleurs, comme quand pour même. Les autres enfants.
Oui.
Donc c'est en cours, si j'ose dire, d'élaboration, mais évidemment il y a encore localement des difficultés parfois à faire admettre que ces enfants ont besoin peut-être d'une adaptation différenciée.
On va parler. Hein.
Oui. Est-ce qu'il faut leur faire sauter une classe ?
Alors oui, le saut de classe est quelque chose qui est très positif, mais ça doit être évidemment interprété de façon individuelle. Si vous avez un enfant dont la première épreuve est de considérer que l'enseignement est trop fade, qu'il s'ennuie toute la journée et qu'il a envie de découvrir autre chose, un saut de classe, ça peut être tout à fait une bonne réponse. Maintenant, vous avez des enfants qui sont surdoués et qui n'ont pas d'autre ambition que de garder leurs copains. Donc il faudra mesurer tous les paramètres, parce que pour certains enfants, le paramètre premier, c'est la vie scolaire, la vie intellectuelle. Pour d'autres enfants, c'est la vie affective.
Voilà.
Et donc, il ne faut pas bousculer le parcours des enfants en prenant seulement un critère.
Alors, on va rester à l'école dans un instant avec le témoignage de Sandra, dont sa fille passe le bac. Elle a des difficultés à l'accompagner, justement. Est-ce qu'il faut choisir aussi, à certains égards, des cours particuliers, des classes, des établissements particuliers pour les enfants précoces ? A tout de suite sur Europe 1. On prolonge un peu le tour de la question avant de parler des loups.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.